Bonjour, chers frères en Christ. Ce sabbat est le dernier sabbat de l'année 2019. La page de l'année 2019 est donc sur le point de se tourner. D'une façon générale, la période de fin d'année est une occasion de faire le point de toutes les activités de l'année écoulée, examiner les succès réalisés ainsi que les échecs encourus et prendre des résolutions pour l'année nouvelle. Cette année a été éventuellement bonne pour certains, difficile et pleine de choses peu agréables pour d'autres. Même si l'avenir ne présage en rien de meilleures solutions, le passage à la nouvelle année est souvent l'occasion de vivre de bonnes résolutions pour l'avenir. Traditionnellement, dans diverses cultures, on perçoit le nouvel an comme l'occasion d'un tournant, d'un changement, d'un nouvel espoir, le moment propice pour passer à autre chose. Alors que l'année 2019 n'a peut-être pas été satisfaisante, l'arrivée d'une nouvelle année serait-elle l'occasion de la laisser derrière? Serait-ce le moment d'abandonner l'échec passé, d'enterrer les haches de guerre et les esprits de rancune? Serait-il possible de remettre les compteurs à zéro et d'entrer plein d'une sereine naïveté dans cette année toute neuve, encore vierge, de 2020? Si les pages de notre journal intime 2019 sont noirs de nos désespoirs, de nos questions sans réponse, tachés de nos frustrations, pouvons-nous tourner la page, découvrir une nouvelle page toute blanche, percevoir notre vie dans ce qu'elle a de prometteur et abandonner les fardeaux du passé? C'est une vision un peu naïve du passage d'une année à l'autre. Pour beaucoup de personnes, c'est joli de prendre de bonnes résolutions, mais ce n'est pas toujours efficace. Pourtant, Dieu avait institué des périodes annuelles où son peuple devrait aller vers lui, confesser ses péchés, se repentir, recevoir le pardon divin afin d'être purifié et repartir sur de bonnes bases. C'est le cas à l'occasion de la fête annuelle de Yom Kippour, ou fête de l'expiation que nous avons dans l'Ancien Testament. Ce matin, la nouvelle base sur laquelle je souhaite que chacun de nous s'appuie dans l'année 2020 est l'esprit de service que nous enseigne notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'esprit de service est la voie du bonheur. Notre Seigneur Jésus est le Fils de Dieu venu sur terre, non seulement pour nous sauver, mais pour nous montrer l'exemple de la manière dont doit se comporter la personne qui aime Dieu. Jésus a affirmé dans Matthieu 20, versets 26b à 28, que vient de nous lire le frère Médard. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu sur terre pour servir. En lisant les évangiles, nous découvrons que Jésus était disponible de jour comme de nuit. Le pharisien Nicodème, chef des Juifs, était venu trouver Jésus pendant la nuit et Jésus l'avait bien accueilli. Jésus s'était déplacé pour délivrer ce démoniaque vivant dans la montagne. Il fréquentait les plus pauvres de sa génération. Il était entouré de mendiants, de gens de mauvaise vie. La foule repoussait ces gens-là, mais Jésus les accueillait. Lorsque Jésus sortait de Jéricho, deux mendiants aveugles criaient « Aie pitié de nous !» La foule les faisait taire, mais Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Jésus publiquement se met à la disposition de ces mendiants. Ce que Jésus voyait au travers de ces gens-là, c'était une âme à sauver. Jésus a pris un linge pour nettoyer les pieds de ses disciples, à la grande surprise de ceux-ci. Si Jésus a fait ce geste à la fin de son ministère, il a donné la raison dans Jean 13, verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et Jésus va donner le but de cette action exemplaire que nous lisons dans Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, selon Jésus, servir les autres, ce n'est pas une corvée qui nous est imposée, mais c'est une source de bonheur. Savez-vous que pour chacun d'entre nous, Dieu a préparé des œuvres? Nous le lisons dans Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre Dieu a donc préparé du travail pour chacun de nous selon nos capacités. Il nous connaît bien ainsi que nos possibilités. Nous sommes des ouvriers avec lui. Nous savons que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce. Cependant, Dieu prépare une récompense pour ceux qui auront travaillé pour lui. Et Paul signale le danger que nous courons pour ne pas vouloir travailler pour avoir mal travaillé. Dans 1 Corinthiens 3, verset 15, nous lisons. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Lorsque Saul de Tarse, le futur apôtre Paul, rencontra le Seigneur, sa première question fut « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Dès sa conversion, Paul était prêt à servir Dieu. Plus tard, Il dira dans 1 Timothée 3, verset 13, « Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. » Voici ce que la parole de Dieu nous dit à chacun de nous dans Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Dieu ne nous demande jamais de faire des œuvres au-delà de nos limites personnelles. Mais quand nous voyons du travail à faire, n'attendons pas que les autres le fassent. C'est à chacun de nous de le faire. Les œuvres sont préparées par Dieu avec un but bien précis. Nous travaillons pour que nos œuvres glorifient Dieu. Nous travaillons également dans le but de faire passer les âmes qui nous entourent des ténèbres à la lumière, de l'enfer au paradis. Dans le livre de Psaume, chapitre 116, verset 12, il est écrit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ? Si nous apprécions à sa juste valeur la grandeur du salut et la gloire qui nous attend dans le ciel, nous devons avoir envie de faire beaucoup d'œuvres pour notre cher Sauveur, pour lui manifester notre reconnaissance. Nos œuvres pour Dieu sont l'expression de notre reconnaissance pour le sacrifice de Jésus mort pour nos péchés. Nos œuvres sont aussi l'expression de notre amour pour Jésus. Écoutez comment Jésus apprécie nos œuvres dans Matthieu 25, verset 35 à 36. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. C'est un service d'amour. Jésus a quitté le ciel pour manifester l'amour de Dieu envers tout être humain. Pour nous aujourd'hui, l'étranger, c'est peut-être aussi la nouvelle personne qui vient pour la première fois à notre Église. Pour nous, celui qui est en prison, c'est peut-être l'infirme qui est prisonnier de son infirmité, le vieillard qui est prisonnier de son grand âge. Des personnes vivent seules et sont soif de contact. À nous de les visiter. Ce ne sont pas des œuvres sociales, mais des œuvres spirituelles. C'est Jésus que nous visitons. Et Jésus n'a pas faim du pain de notre boulanger, mais Jésus a faim et soif de notre amour pour lui et pour les prochains. En tant qu'enfant de Dieu, les Saintes Écritures nous ont appris que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Jésus est attentif à notre service pour lui. Lisons Matthieu 10, verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. La valeur de cette action, ce n'est pas le prix d'un verre d'eau froide, mais c'est le geste d'amour. Ne soyons pas déçus si les bénéficiaires de nos actes d'amour ne sont pas reconnaissants. Nous attendons la récompense, non des hommes, mais de Jésus lorsqu'il nous recevra là-haut dans sa gloire. Il nous récompensera pour tous nos services faits en son nom. Le service est un grand trésor. Des œuvres ont été préparées pour chacun de nous et la joie de notre Maître, c'est de nous voir les accomplir. Proverbe 12, verset 27 dit: mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Nous constatons parfois que les chrétiens les plus actifs sont souvent les plus critiqués. En fait, le diable fait tout pour nous décourager, nous détourner de nos activités pour le Seigneur. Mais Dieu renouvelle nos forces pendant la marche. Il nous fortifie par son esprit. Il nous bénit dans notre santé et dans nos affaires. Avez-vous remarqué que lorsque vous donnez de l'argent pour l'œuvre de Dieu, cet argent ne vous manque pas? Même l'âge ne fatigue pas parfois pour servir Dieu. Écoutons ce que Caleb dit à Josué. Et maintenant, je suis âgé de 85 ans. Je suis encore aussi vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya il y a 45 ans. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Ne pas servir Dieu peut nous mettre en danger. Le roi David aurait peut-être pu échapper à son péché dramatique. En nous racontant sa chute misérable, Dieu veut probablement nous donner une leçon. Israël était en guerre contre les fils d'Ammon. David envoie ses troupes pour le combat, mais quant à lui, il préfère rester chez lui, loin des combats. Et que faisait-il chez lui? Lisons 2 Samuel 11, versets 2 à 4. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. Il envoya les gens la chercher et il coucha avec elle. Ses armées sont au combat et lui, il passe l'après-midi chez lui à dormir. Ayant du temps de libre, il porte les yeux où il ne fallait pas et commet le grand péché de sa vie. Dieu nous garde durant notre travail pour lui, mais ne pas vouloir servir Dieu, c'est s'exposer à la tentation, aux œuvres du malin. C'est à chacun de nous de faire le bon choix. Oui, je veux servir Dieu, car alors je serai sous la protection du Très-Haut. Parlant de son retour dans la parabole des talents, Jésus considère ses disciples comme des serviteurs. Il demande plus à certains qu'à d'autres, car nous avons reçu des capacités différentes selon la volonté de notre Maître. Les qualités que Jésus apprécie chez ses serviteurs dans la parole des talents, si nous nous souvenons, dans Matthieu 25. Verset 21, c'est « Bon et fidèle serviteur, car ils ont fait prospérer les talents remis. Servons Dieu avec bonté et avec fidélité. Chaque serviteur l'a servi à 100%. Celui qui avait reçu 5 talents en a gagné 5, et celui qui en avait reçu 2 en a gagné 2. » Servons donc le Seigneur à 100% de nos moyens. Les défauts qu'il a reprochés au troisième serviteur dans Matthieu 25, verset 5. Ah, je ne l'ai pas. Matthieu 25, verset 26 dit « Méchant et paresseux ». Jésus n'accepte pas donc que l'on ne s'engage pas dans son œuvre, et cette paresse engendre la méchanceté. Donc, servir Dieu nous dégage de la méchanceté et de l'oisiveté. Comme le dit un proverbe, l'oisiveté est la mère de toutes les vices. Levons-nous et travaillons pour Dieu, car celui qui nous connaît bien ne nous demande jamais de travailler au-delà de nos forces. Le service pour Dieu procure de la joie, car voici ce que nous dit Jésus si nous sommes en train de le servir à son retour. Il nous dira, entrez dans la joie de votre maître, et vous qui cherchez la joie véritable, celle qui descend du ciel, entrez dans le service de votre maître. Amen.